France Culture.
Patrice Lecomte, bonsoir.
Bonsoir.
On vous retrouve pour le second épisode de ces entretiens à voix nue. À la fin du premier, nous vous avons laissé dans une situation un peu compliquée. Après le premier long métrage, Les WC étaient fermés de l'intérieur, premier film mettant en scène Coluche, écrit avec Gottlieb. Vous vous demandez si votre avenir dans le cinéma n'est pas compromis. Pour faire un jeu de mots un peu facile, est-ce que les portes du 7e art ne se sont pas fermées de l'intérieur pour vous dans les mois qui suivirent ?
Après ce film, dont le tournage s'est très mal passé, mais pas à cause de Coluche, mais à cause de Jean Rochefort, qui m'a vraiment pris, pardon, c'est un peu vulgaire, mais qui m'a vraiment pris pour un branleur, quoi, un incapable en tout cas. Après, comme le film n'a pas été un succès, si le film avait été un succès faramineux, on aurait tous oublié, on aurait tout pardonné. Comme ça n'a pas été vraiment un succès incroyable, ça a été très très difficile de se motiver, de retrouver l'enthousiasme, la détermination, les idées, le courage c'est autre chose, mais un peu de volonté, d'enthousiasme pour faire un deuxième film. Et j'ai écrit d'autres films que je suis jamais arrivé à faire, qui étaient tout le temps qui étaient encore dans le domaine de la comédie et de la parodie, parce que ça me convenait, c'était assez bien et ça. Et puis là-dessus, comme je fréquentais beaucoup les cafés-théâtres, c'est comme ça que j'avais connu Coluche, mais c'est surtout comme ça que j'ai connu la bande, enfin les six du Splendide, et j'allais souvent les voir, on était devenus assez copains. Et quand un producteur, Yves Rousseyroir, leur a proposé de tourner Les Bronzés, qui était l'adaptation de Amour, coquillage et crustacé, et ils ont dit, oui, super, on est très content de faire un film avec ça, c'était bien, mais on va faire ça avec Patrice parce qu'on s'entend bien avec lui.
Parce qu'ils avaient vu votre premier film, et ils avaient aimé.
Ils avaient vu ce premier film, ils avaient bien aimé ça, on avait sympathisé, ils se rendaient compte qu'on riait des mêmes choses, qu'on avait à un an ou deux ans près le même âge, enfin vraiment on était dans un mouchoir de poche, et donc il se sentait en confiance, alors que le producteur Yves Rousseyroir donc voulait leur mettre un réalisateur confirmé, quelqu'un qui il avait pensé à Claude Zidi, Édouard Molinaro et tout ça, et tous ces gens-là sont des gens de talent, c'est pas la question, mais le Splendide, ils ont dit non, on veut faire ça avec Patrice, parce que au moins avec Patrice ce sera notre film à nous tous, et ils ont réussi à m'imposer. Et je leur dois beaucoup, beaucoup, parce que c'est vrai que après trois ans, ou je sais plus combien, il y a eu trois ans un peu gris sombre, pas noir, mais gris très foncé, parce que j'arrivais pas. Et au bout de ces trois ans, il y a eu cette proposition de tourner Les Bronzés avec le Splendide. Et là, pour le coup, pour moi, la vie a commencé.
Et donc, commencé, c'est-à-dire vous êtes mis autour d'une table, il y avait déjà la pièce qui existait, donc il fallait l'adapter. Quel a été votre rôle dans l'écriture collective ?
Le rôle, j'avais l'impression, c'était virtuel, mais j'avais l'impression d'être le septième bronzé, le septième splendide. En fait, les personnages existaient tous. La plupart des situations, club de vacances, club méditerranée, et les situations existaient dans le spectacle. Dans le spectacle de café-théâtre, et il s'agissait pour moi de non pas de proposer des idées, parce que les idées ils les avaient, et puis ça a fusé dans tous les sens, mais c'était de faire en sorte que ça s'ordonne au niveau du scénario, j'entends que ça s'ordonne en tant que scénario, que film, de séquence, d'enchaînement, de construction, de choses comme ça. Et au tournage, ce qui a été vraiment très bien au tournage, c'est que même s'il y avait un côté collectif, et je dis volontiers que Les Bronzés, c'est notre film et non pas mon film. Mais vraiment, c'est pas par fausse modestie, c'est notre film. Et sur le tournage, à aucun moment, ils se sont mêlés de la réalisation, de la mise en scène et tout ça. Moi, je tournais le film comme j'avais en tête. Et ça a été pareil pour Les Bronzés font du ski. C'était la même chose. Ils ne sont jamais intervenus. Ils étaient acteurs, enfin, comédiens. Et moi, j'étais réalisateur. Comme sur un film normal. C'était un film normal, après tout.
Et Les Bronzés premiers, Les Bronzés, ont été tournés dans un club de vacances. C'était pas vraiment un club med, même si
référence. C'était en Côte d'Ivoire. Et le club dans lequel on a tourné était un ancien club med. Le club med avait été là. Donc les infrastructures, tout ça, c'était conforme. Et le club med avait déménagé pour s'installer de manière plus luxueuse. Plus vaste surtout, à 3 kilomètres ou 4 kilomètres de là. Et le club de vacances dans lequel on a tourné, donc l'ancien Club Med, avait été repris par une compagnie de vacances italienne. Donc c'était marrant parce qu'il y avait la clientèle était essentiellement italienne. Et ce qui est marrant aussi, c'est que parce qu'on n'avait pas le droit, de tourner dans un vrai Club Med. Trigano n'était pas très très pour parce qu'il savait qu'on allait peut-être se moquer. Et qu'est-ce qu'on a fait? Et donc souvent le soir. On quittait notre club du tournage pour aller au vrai Club Med, pour aller au bar et rencontrer des géos, boire des verres de je sais pas quoi. Enfin bon, et puis on rentrait chez nous, dans notre club devenu italien, et le lendemain, le tournage continuait.
Et j'ai lu que vous n'étiez jamais allé avant le tournage dans un Club Med, donc vous n'aviez pas les codes
jamais,
alors.
Jamais, jamais. Alors c'est
GM, GO.
GM, GO, chef des sports, chef
de. Et vous ne l'aviez pas dit à l'équipe qui a dû être.
Non, non, mais Et alors, évidemment, je n'ai jamais osé dire aux gens du Splendid que je ne connaissais pas le Club Med, parce que je me suis dit, ils vont me virer si je ne connais pas, alors qu'eux, ils connaissaient par cœur. Ils avaient fait des séjours, ils avaient fait des animations, des trucs. C'est là qu'ils avaient pris en note des tas de choses pour faire ce spectacle, puis le film. Et donc, quand ils me parlaient de questions café, je faisais oui, oui avec la tête, mais je ne savais absolument pas de quoi il s'agissait. Et puis après le film, je suis allé avec ma femme et notre fille aînée, enfin qui était encore enfant évidemment. Nous sommes allés au Club Med au Sénégal, au vrai Club Med, pour passer une semaine ou 10 jours. Et là, ça m'a fait un effet très bizarre parce que j'ai vécu tout ce que j'avais mis en scène un an auparavant dans le film, mais sans savoir que c'était ça la vie au Club Med. Et j'avais l'impression d'être acteur dans mon film, en fait, d'être un bronzé.
D'ailleurs, on vous voit sur certaines photos en plein tournage, voilà, comme cette photo par exemple, avec votre bob, une lunette de soleil, le porte-voix. Et est-ce que vous vous souvenez justement de l'ambiance sur le tournage? C'est une ambiance de colonie de vacances, mais vous restiez très sérieux, professionnel.
C'était bien parce que c'est vrai que c'était des conditions idéales. Dès qu'il y avait un plan qui prenait un petit peu de temps à régler, on pouvait piquer une tête dans la piscine, ressortir, tourner. Enfin bon, mais malgré tout, il y a un plan de travail à respecter, il y a des horaires de tournage. Les gens du Splendid sont extrêmement professionnels. Ils l'ont toujours été, ils l'étaient déjà. C'est-à-dire que le dialogue, il n'y a pas d'improvisation, tout est écrit. Tant mieux si ça semble improvisé, c'est encore plus chic. Mais non, c'était très, très rigoureux. Alors, c'est tourné dans des conditions. Moi, j'ai préféré, je préfère les bronzés font du ski, comme film. Mais j'ai préféré le tournage des bronzés le premier, parce qu'on était en t-shirt et en maillot de bain. Alors que le deuxième, moi, j'aime pas le froid, ça m'énerve le froid. Enfin, ça me plaît pas. Et donc, on était équipés de moonboots, de doudounes, de bonnets, on avait froid au nez, enfin, les bronzés font du ski, c'est quand même mieux.
Pourquoi vous préférez les bronzés font du ski?
Je préfère pas les bronzés font du ski pour la température du tournage, ça non, vous avez compris, mais simplement parce que je trouve que le film est plus vachard, plus méchant. Les personnages entre eux, ils se tirent dans les pattes, ils se disent des choses affreuses, quoi. Et je crois, les bronzés, le premier n'était pas un film gentil, c'est pas ce que je veux dire. Mais celui-là est plus méchant, plus acide et plus rythmé. Je l'ai revu à une occasion, je revois pas mes films tous les soirs, loin de là.
Mais on passe souvent la télévision.
Oui, oui, mais à ce moment-là, je vais voir autre chose ailleurs, je vais bouquiner dans la pièce d'à côté. Mais je l'ai revu au cours d'un passage, il y a un an, 2 ans, 3 ans, je sais plus, à la télévision. Et je me suis marré, quoi. Je me suis marré, non pas comme si c'était le film d'un autre, mais je me suis marré parce que ça n'arrête pas. Il n'y a pas beaucoup de temps mort, quoi. Et ça, c'est très bien, ce film. Quand on me dit, les bronzés, on oublie, hein. Si vous commencez à vous rigoler, jamais. Jamais j'oublierai.
Vous aviez le sentiment, pour les bronzés première version, d'avoir quand même, après votre première expérience DVC, un gros poids sur les épaules. Vous n'aviez pas tellement le droit à une deuxième chance. Donc c'était une pression supplémentaire.
Effectivement, je ne pouvais pas me gourer deux fois, quoi. Bien sûr que non. Mais j'avais confiance. Alors intérieurement, j'étais noué comme c'est pas permis parce que je me disais effectivement ce que vous me faites remarquer, on peut pas se viander deux fois, quoi. Et puis le Splendid me fait plaisir, faut que je sois à la hauteur. Mais coup de bol, comme je me suis pas laissé submerger par mon petit trac, et que je ne l'ai pas exprimé non plus du tout, ben j'ai été sauvé parce que le film a été, pour nous tous, ça a été un succès. Ouais. Et le producteur a commencé à nous dire, on va faire la suite, on va faire au ski. Nous, on ne voulait pas, mais on l'a fait et on a bien fait.
Oui, on ne va pas repasser toute l'épopée des bronzés, parce que ça nous prendrait au moins 3 épisodes complets d'À Voix Nue. Alors, le 22 novembre 78, le film sort sur les écrans. C'est un gros succès, 2 millions d'entrées, vous êtes rassuré. Et là, c'est ce que vous disiez, finalement, le Splendide, lui, pas forcément envie de faire une suite, mais le producteur pousse derrière.
Oui, mais il a eu raison de nous pousser. Parce qu'on trouvait que faire un numéro 2, donc une espèce de saga, c'était... on pouvait reprocher ça facilement à d'autres cinéastes ou d'autres films qui avaient le 1, le 2, le 3, le 12, pourquoi pas. Donc on dit, mais non, on a d'autres idées, on va faire autre chose. Mais en fin de compte, le producteur, Yves Rousserrois a insisté et il a eu raison d'insister parce que je ne regrette pas du tout, malgré le froid, d'avoir fait les bronzés fonds du ski.
Et au départ, c'était pas forcément prévu d'être dans une station de ski, c'est ça ou
Ah ben si, il fallait quand même bien être dans une station de ski.
Non, mais c'est-à-dire qu'avant même sur l'idée même du scénario, puisque là, on part sur un scénario pas adapté d'une pièce, c'était réinventé.
Ah oui, bien sûr. Non, mais on gagnait du temps quand même sur l'écriture parce que les personnages étaient là, avec leur travers, leurs défauts. Donc on les connaissait, les personnages. Donc c'est quand même beaucoup plus facile d'écrire, d'inventer pour des personnages qui existent, dont on connaît la personnalité, que d'écrire dans le vide, évidemment.
Il n'y avait pas une histoire de crash d'avion, parce que
des gags dans une station avec le tire-fesse, le télésiège et tout ça. A priori, ça nous barbait un petit peu. On voulait être plus originaux que ça. Et à cette époque-là, il y avait le crash d'avion dans les Andes. Où les gens, pour survivre, avaient mangé des cadavres. Donc c'est pas d'une gaieté folle, je sais pas s'il y avait moyen de faire une comédie avec ça, mais on était prêts à rire de tout. Donc tout ça est tombé à l'eau, parce que le producteur nous a dit « mais vous êtes quand même fous, on fait pas une comédie avec ça ». Mais nous, on croyait plus volontiers à cette dépose en hélicoptère qui tourne pas très bien, qu'à des trucs qui se passeraient dans la station... alors donc on a tourné beaucoup en disant ben on coupera plus tard et ce qui est fou c'est que les bronzés font du ski, le montage mais pas un premier montage hâtif, non le montage vraiment monté, serré et rythmé faisait 2 heures, un peu plus de 2 heures. Donc on a viré, il y a une demi-heure qui est partie à la corbeille et qu'on ne verra jamais.
Oui, c'est ça. Je crois qu'il y a les scènes dans la piscine du Sofitel avec
oui,
Charles Jumeau.
Il y a des scènes.
Et une piscine à hublot. On pouvait voir évoluer dans la piscine tout nu. Je crois qu'il y a des choses comme ça qui ont été coupées au montage.
Oui, oui. Mais les trucs qui ont été coupés, on était obligé de couper parce qu'on ne fait pas une comédie de 2 heures. Ça n'existe pas. Enfin, c'est trop long. Donc, les choses qu'on a coupées, il y avait des choses qui étaient pas mal, qui auraient pu rester, mais bon. Et puis, il y avait des choses qui n'étaient pas merdiques, mais qui n'étaient pas si drôles que prévu, quoi. Je sais pas. Enfin, bon, par exemple, rapidement, à un moment, Thierry Lhermitte montait dans une cabine de téléphérique avec dans les bras le petit chien de Marianne Chazelle. Et le petit chien pétait énormément. Et tous les gens de la cabine pensaient que c'était Thierry Lhermitte, enfin Popeye, qui pétait. Eh ben, quand c'est raconté comme ça, ça peut vaguement déclencher un sourire, mais quand c'était monté, c'était pas drôle du tout. Ça faisait pas marrer. Donc là, il y a pas de regret quand on coupe des trucs comme ça, c'est pas grave.
Oui, parce qu'aujourd'hui, on en aurait fait des bonus dans une édition.
Oui et non. À cette époque-là, on tournait sur film, il n'y avait pas d'édition DVD, les éditions DVD des bronzés, c'est venu beaucoup plus tard. Donc les chutes et doubles et tout ça, le laboratoire, au bout d'un certain temps, dit « qu'est-ce qu'on en fait ? On détruit ?» Oui, détruisez, ça ne nous servait à rien, il n'y avait pas de bonus, il n'y avait pas de trucs comme ça. Mais de toute façon, moi, je ne suis pas très fan des scènes coupées dans les...
Les director's cut, comme ils disent.
Non, mais parce que si la scène a été coupée, c'est parce qu'elle n'est pas bonne. Plusieurs fois, dans d'autres films que j'ai fait ensuite, l'éditeur DVD m'a dit « il y a des scènes coupées, vous ne voulez pas les mettre ?» Je dis « non », et les commenter. Je dis « non, parce que si je les ai coupées, c'est parce qu'elles ne me plaisent pas, donc ça me... » C'est comme dans les photos, on n'a pas envie de montrer des photos de soi quand on a une tête de nœud, quoi.
Avec ces deux premiers bronzés, est-ce que vous aviez eu le sentiment de transgresser quelque chose, d'avoir un ton plus mordant, un peu à la manière des comédies satiriques italiennes?
Oui, il y avait, c'est assez générationnel. Il y a régulièrement des remises à niveau de l'humour dans le cinéma. C'est-à-dire que l'humour café-théâtre, ça veut tout dire et rien dire. Mettons, l'humour du Splendide, c'est vrai que ça donnait d'un seul coup un coup de vieux aux comédies Truffion, les films de Robert Lamoureux, Gérard Oury, tout ça. Il y avait un vent nouveau, quoi. Vraiment, plus tard, il y a eu la période Étienne Chatillez, il y a eu la période des Nuls, il y a eu des renouveaux en permanence comme ça, et ça continue, et c'est très bien.
On fait un petit flashback. Les Bronzés du Fond du Ski sortent en 79 avec le succès que l'on sait. Un troisième volet dans les cartons. Thierry Lhermitte, Gérard Jugnot et Christian Clavier partent à New York faire des repérages, et puis le projet ne se fait pas. Alors qu'est-ce que vous faites alors ?
Eh ben, c'est pas très compliqué. Bronzé 1, Bronzé Fond du Ski. Ils partent à New York pour écrire un Bronzé à New York. On n'y croyait pas trop. Je crois qu'ils sont partis aux frais de la production pour faire du tourisme à New York. Enfin, j'exagère, mais à peine, sans doute pas. En tout cas, il n'y a jamais eu de scénario. Et là-dessus, un homme qui a été très important dans ma vie, un producteur, Christian Fechner, qui est un type vraiment formidable, et j'en parle à l'imparfait parce qu'il est parti, beaucoup trop tôt, il me dit, venez me voir à mon bureau, j'ai aimé les Bronzés, voilà, j'ai une comédie, viens chez moi, j'habite chez une copine, j'ai acheté les droits, c'est une pièce...
De Louis Rego et...
De Louis Rego et Louis Kaminka, enfin bref. Et je dis à Christian Fechner, ben oui, avec plaisir, super. Il me dit, vous pouvez tout changer si vous voulez. Et c'est là que j'ai dit à Christian Fechner, je lui ai dit, j'aimerais bien faire ça avec Michel Blanc parce que je m'entends bien avec lui, parce qu'on n'a pas envie de s'évader du Splendide, c'est pas ça, mais on avait envie de faire des trucs ensemble, quoi. Michel Blanc, très bien. Donc on est parti avec Michel Blanc pour écrire l'adaptation de cette pièce, dont on a gardé peu de choses. On a gardé le titre quand même parce qu'il était bon. À l'époque, c'était la mode, oui, des titres très longs.
On était au début des années 80.
Ouais, c'est ça. Oui, oui.
Ère mitterrandienne. Et on retrouve d'ailleurs des acteurs, des actrices. Viens chez moi, j'habite chez une copine. Puis après, vous enchaînez avec Michel Blanc, avec Ma femme s'appelle Reviens, et Circuler, il n'y a rien à voir.
Ah, Circuler, il n'y a rien à voir.
C'est peut-être un peu plus tard.
Rien que de prononcer le titre, je me dis, oh, on peut pas avoir tout bon, hein, loin de là. Moi, j'ai pas tout bon, mais il y a quelque temps, j'ai croisé une dame sur le passage Schulte en bas et sur le passage piéton en bas et qui me dit, oh, vous êtes Monsieur Lecomte, j'ai pas raté un seul de vos films. Alors je lui dis, bah, c'est pas comme moi, madame. J'ai raté des films, bien sûr. Et c'est pas grave, quoi, parce que Charles Laughton, lui, il peut être fier parce qu'il a, tous ses films sont un chef-d'œuvre. Il en a fait qu'un. C'est un chef-d'œuvre.
La nuit du chasseur.
Ouais. La nuit du chasseur. C'était pour voir si vous suiviez, si vous étiez suffisamment cinéphile.
Alors, dans les comédies de ce début des années 80, on retrouve pas mal d'acteurs comme Gérard Lanvin, en pleine forme. Hein. Gérard Lanvin, Bernard Giraudot, Martin Lamotte, Jacques Villeray, Anémone, Marianne Chazelle, et donc Michel Blanc, en personnage de loser, mais qui évolue. Est-ce que réussir une comédie, c'est moins facile qu'on peut l'imaginer ?
Réussir une comédie, je crois que de toute façon, réussir un film, il n'y a pas de recette, il n'y a pas de fiche cuisine, et que si on suit précisément la fiche cuisine, on va faire un succès. Non, ça n'existe pas. Et c'est tant mieux si ça n'existe pas. Mais une comédie, c'est un peu plus difficile parce que par définition, une comédie est destinée à faire rire. Or, sur un tournage de cinéma, il n'est pas question de rire. Donc, on peut rire, mais intérieurement. Mais de savoir, de se rendre compte, est-ce que ça va faire marrer les gens ou pas, ça, c'est très dur. Quand on est au montage d'une comédie, d'avoir le bon rythme pour organiser les plans, les séquences, c'est très compliqué. D'autant plus que si vous jouez une pièce de théâtre rigolote, enfin, si les gens se marrent, vous pouvez adapter le rythme de votre jeu aux réactions du public. Mais un film, Mais ce qu'il passe le mardi à 14 heures devant une salle de 10 personnes ou qu'il passe le samedi soir devant une salle pleine, les rires sont pas les mêmes. Et pourtant, le rythme du film est par définition le même. Et ça, c'est très compliqué d'essayer de sentir, de savoir. Il faut imaginer que ça, ça a fait rire, ça, ça fera pas rire. C'est très compliqué. Mais plutôt que de se prendre le chou et de se poser des questions jusqu'à pas d'heure, le tout, c'est de faire comme on le sent soi-même. Il faut que... Moi, ça semble très égoïste, mais c'est très vrai, quoi. Il faut que ça me plaise à moi. Et puis, avec un peu de bol, ça plaira aux autres.
Et pour ces comédies, vous avez travaillé avec Michel Blanc. Comment s'est passée la collaboration? Est-ce qu'on sait qu'il était un très grand dialoguiste?
Oui, mais c'était très simple. Avec Michel, on a fait ça sur les deux films qu'on a écrits ensemble. « Viens chez moi » et « Ma femme s'appelle Reviens ». On travaillait chez lui, on imaginait les séquences, les trucs, de quoi se compose la scène, qu'est-ce qui se passe, patati, etc. Et puis je le laissais tranquille, et puis je retournais chez moi, et lui... Il passait le restant, la fin de la journée, à dialoguer les scènes qu'on avait inventées dans la journée. Et le lendemain, j'arrivais et il me lisait, c'était des moments formidables, il me lisait les scènes qu'il avait dialoguées en faisant tous les rôles. Et un jour, ça a été une leçon vraiment importante, qui me reste. C'est qu'un jour, j'arrive chez lui et je dis alors, la scène 17, il me dit, je suis pas arrivé à la dialoguer, j'ai pas fait les dialogues. J'ai dit, t'as pas eu le temps, t'étais pas en forme, qu'est-ce qui s'est passé? Il dit non. Et c'est là où j'ai pris une leçon, ça m'a servi. Il m'a dit, je pense que si je n'arrive pas à dialoguer cette scène, c'est parce qu'elle est mal écrite, elle est pas bien. C'est parce que la scène est pas bien. La situation est pas bonne, les enjeux du comique ou quoi ou qu'est-ce. Et il avait raison, parce qu'on a changé, on a imaginé autre chose, autrement. Et le lendemain, la scène était très joliment dialoguée. Et ça m'est resté.
On a parlé tout à l'heure de Christian Fechner, est-ce qu'on peut en dire un peu plus? Il a produit dans cette période 4 de vos films quand même. Comment vous l'aviez-vous rencontré? Est-ce que c'était dans le milieu du cinéma?
Christian, la première fois que je l'ai rencontré, et souvent quand je l'ai rencontré, c'était à son bureau de production. Ouais. Il m'avait appelé ou fait appeler, ça je ne sais plus, pour me proposer de faire « Viens chez moi ». Et après, quand on se voyait, quand il avait des idées, des projets, ou que j'en avais moi-même, mais il était vraiment spectaculaire spectaculaire. Il était assez calme, il parlait pas fort. Il avait un petit côté sphinx, mais dans le bon sens un sphinx agréable. C'était un grand illusionniste, précipitateur. C'était un fou d'illusions et de magie. Et il inventait des tours et tout ça, et souvent, Quand on avait une conversation avec lui, il avait une bille dans les mains pour faire fonctionner ses phalanges.
Pour garder
pour que les lois s'envolent. Et alors, là où il était vraiment, quand je dis spectaculaire, saisissant, c'est que, un jour, par exemple, et c'est arrivé plusieurs fois, il m'a appelé, il m'a dit, Patrice, est-ce que vous êtes libre parce que j'ai un truc à vous proposer. Et moi, j'aimais beaucoup quand il dit ça. Je me dis, mais quoi, il fait Monsieur Mystérieux, ça va être quoi ce truc à proposer? Et donc j'arrive une demi-heure après dans son bureau et il me dit voilà, Lanvin, Giraudot, Côte d'Azur, le casse du siècle, et il n'y a qu'avec vous que je veux faire ça. Et ça a donné les spécialistes. Et moi je mets, 8 secondes et demie à lui dire très bien, on commence quand? Et donc après, il s'agissait d'écrire, José Giovanni s'est mis sur le coup, puis quelqu'un d'autre. Enfin bon, peu importe par quoi on est passé, mais il était comme ça, quoi.
Il était banco. Ouais.
Et avec des propositions pareilles. Ah non, parce que juste avant, non, ça c'était très important. Juste avant de me dire ça, il me dit, est-ce que vous avez envie de faire des comédies toute votre vie? Et je dis, oui, non, je sais pas pourquoi. Mais je m'étais jamais posé la question. C'est vrai que faire rire, c'était ma tournure d'esprit, ça me convenait, tout ça. Je dis, non, oui, je sais pas pourquoi. Et c'est là qu'il me dit, Lanvin, Giraudot, film d'aventure, Côte d'Azur, le casse du siècle, dans un casino. Et je lui dis, c'est super. Et quand on pense, quand on écrit, quand on dit assez souvent que c'est avec Tandem que j'ai... pris une tangente, enfin que j'ai changé. En fait, non, c'est pas Tandem, c'est les spécialistes qui a été le début de mes changements.
Et donc Christian Fechner, et je crois qu'il savait aussi très bien convaincre, c'est normal pour un producteur, les chaînes et les partenaires. Et pour, j'avais noté que pour la plus tard, hein, mais La fille sur le pont, par exemple, il avait un film en noir et blanc et en scope, il avait été important.
Oui, je lui avais dit, il m'avait dit noir et blanc, écoutez, je vous fais confiance, Patrice, ça va être plus difficile à vendre, mais je vais me débrouiller. Et c'est vrai qu'à l'époque, je sais plus de quand ça date, La fille sur le pont, mais à l'époque, il y avait pas de film noir et blanc, enfin très peu. C'était vraiment des films. Je ne sais pas si c'était mal vu, mais enfin, il y en avait très peu, bref. Et donc, il se voyait mal aller faire toc-toc chez TF1 ou La 2 et dire, voilà, on va faire un film en scope et noir et blanc. Il est arrivé quand même.
C'est lui aussi qui a produit Les Bronzés 3. Alors là, oui. On est un peu plus loin, 26 ans après, en 2006. Est-ce qu'on peut en dire, hein, comme ça, on clôturera l'épopée des Bronzés sur ce troisième volet. On vous a reproché, ou certains critiques, que les personnages étaient un peu embourgeoisés, et l'humour aussi. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça?
Oui, oui.
En tout cas, Gilles Jacob, suite au succès des Bronzés 3, vous a appelé pour proposer d'être juré à Cannes. Donc il y avait quand même... Et gagner encore un petit échelon.
Oui, non, mais je suis d'accord. Il y a un truc, mais je ne dis pas ça pour ma défense, mais quand on dit les Bronzés 3, c'est nul, si ça avait été vraiment nul, ça n'aurait pas fait 11 millions d'entrées, quand même. Parce que ça se serait su très vite que ce n'était pas bien. Donc ça a fait marrer les gens. Je comprends qu'on préfère les autres Bronzés, surtout les Bronzés Fontuschi, parce qu'il y avait quelque chose de plus... Il y avait une espèce de fraîcheur qu'il n'y a pas dans... Les Bronzés 3, les Bronzés Amis pour la vie, c'est mine de rien, c'est un gros machin. Tous les personnages se sont embourgeoisés. Les acteurs eux-mêmes, c'est-à-dire les acteurs sont devenus vedettes. Le personnage qui me plaît le plus dans Les Bronzés 3, et je l'ai souvent dit, mais c'est vrai, c'est le personnage que joue Christian Clavier, parce que justement, lui, il est complètement à la ramasse, il est au fond du trou, il est au bout du rouleau. Il a une espèce de voiture, de moniteur d'auto-école. Il est radié de l'ordre des médecins. Mais ce qui est formidable, c'est que... Donc lui, c'est vraiment le raté de la bande. Mais ce qu'il y a de formidable, et c'est pour ça que j'aime son personnage et qu'il le joue super bien, c'est que malgré ses échecs et malgré sa situation d'échec, il a toujours un enthousiasme chevillé au corps. Il y croit, il se bat, il pense pas qu'il est fini. Et ça, je trouve ça... C'est même carrément une leçon de vie, je trouve.
Et est-ce que vous auriez pensé, au tout début des Bronzés, de la saga des Bronzés, que les six principaux membres de la troupe Splendides fassent la carrière solo qu'ils ont faite?
C'est incroyable. Pas, parce qu'ils sont devenus tous vedettes, quoi. C'est-à-dire qu'on monte aujourd'hui un film sur le nom de Juniau, ou de Clavier, ou de l'Ermite, ou de Balasco, bien sûr. Mais c'était impensable. Et je me souviens très bien de Marc Esposito, qui était le directeur en chef du magazine Première, je crois, qui était venu sur les Bronzés, le premier des Bronzés aisés en Côte d'Ivoire, et qui m'avait dit un jour, tu vois, là, tous, là, ils sont extra, tous. Mais lesquels vont devenir vedettes? On ne pouvait pas répondre. Maintenant, on peut répondre.
Bien, Patrice Lecomte, demain, nous aborderons l'une de vos périodes les plus créatives, entre la fin des années 80 et le début des années 2000, période qui vous a consacré comme un auteur à part entière. À demain, merci.
À demain, merci à vous.
C'était À Voix Nue, réalisation Laurent Polleré, prise de son Florent Layani, chargé de programme Daphné Abgral, une série d'entretiens proposée par Pierre Lorimi, disponible sur franceculture.fr et l'application Radio France.